Bonjour, et bienvenue dans ta formation complète de droit pénal général, d'après le cours de la professeure Slimani Amina, à l'université Mohamed V de Rabat. On va parcourir ensemble la totalité du programme, l'introduction, les grands principes, l'application de la loi, l'infraction, et les personnes responsables. Prends ton temps, écoute chaque chapitre, et tu seras prêt pour ton examen. Commençons. Voici la carte du cours. D'abord une introduction générale, la définition du droit pénal, ses fonctions, son objet, son histoire et ses écoles de pensée. Ensuite la première partie, consacrée aux principes généraux, le principe de l'égalité, puis l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. La deuxième partie porte sur l'infraction, sa classification et ses éléments constitutifs. Enfin, les personnes pénalement responsables, l'auteur, la tentative et la complicité. Gardons ce plan en tête tout au long. Commençons par la définition. Le droit pénal peut se définir de deux manières. Au sens strict, c'est la définition des infractions et de leurs sanctions. Au sens large, celui qu'on retient aujourd'hui, c'est l'ensemble des règles qui organisent l'exercice de la répression par l'État. Le professeur Levasseur le définit comme la branche du droit positif ayant pour objet l'étude de la répression, par l'État, des comportements de nature à créer un trouble intolérable pour l'ordre social. Deux concepts clés reviennent toujours, l'infraction et la peine. Le droit pénal remplit une double fonction. D'abord une fonction expressive, c'est un droit qui interdit. Toute incrimination repose sur un choix de valeurs jugées indispensables à l'ordre social, c'est ce qu'on appelle l'aspect axiologique. Ensuite, une fonction répressive, c'est un droit qui punit ceux qui portent atteinte à ces valeurs. On dit que le droit pénal est l'ultima ratio, le dernier recours de la réaction sociale, même si on observe aujourd'hui une inflation pénale, c'est-à-dire une multiplication des incriminations. L'objet du droit pénal, c'est de déterminer les faits qui troublent l'ordre social. L'article 1er du Code pénal le dit ainsi, « La loi pénale déterminée et constitue en infraction les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'il provoque, justifie l'application à leur hauteur de peine ou de mesure de sûreté. » Retiens deux choses, le trouble à l'ordre social est le seul critère d'incrimination retenu par le législateur marocain, et celui-ci a toute latitude pour déterminer les comportements interdits. Pour comprendre le droit pénal actuel, un bref retour en arrière. Aux temps anciens, on traverse trois périodes. D'abord la vengeance privée, il n'y a pas d'État, c'est la vengeance du sang, la famille ou la tribu se venge. Puis la justice privée, la vengeance se limite à la victime, et uniquement contre l'auteur de l'agression. Enfin la justice publique, qui naît avec l'État moderne, l'État se substitue aux particuliers et devient seul détenteur du pouvoir de punir. À l'époque contemporaine, la doctrine classique domine, avant la mutation apportée par les positivistes puis par la défense sociale. Au Maroc, le Code pénal a été promulgué le 26 novembre 1962, par Dahir. Il s'inspire largement du Code français, avec une double influence doctrinale, les néoclassiques, qui lient la responsabilité au discernement et échelonnent la peine, et les positivistes, qui introduisent les mesures de sûreté et tiennent compte de l'état dangereux. À partir des années 2000, de nombreuses réformes arrivent, sous l'effet des engagements internationaux, lutte contre le terrorisme, le blanchiment, la cybercriminalité, la protection de l'enfant et de la femme. La Constitution de 2011 consacre le droit à la vie et interdit la torture. Et un projet introduit les peines alternatives. Trois grandes écoles fondent la pensée pénale. L'école classique, pour elle, la peine a une fonction morale, il faut châtier le coupable pour qu'il expie sa faute, même si la peine paraît inutile. L'école positiviste, née en Italie, trois ouvrages la fondent, L'homme criminel de Lombroso en 1876, La sociologie criminelle de Ferry en 1881, et La criminologie de Garofalo en 1885. Elle repose sur le déterminisme, l'homme n'étant pas libre, la culpabilité morale devient absurde. Enfin l'école de la défense sociale, le crime est un problème humain, la sanction doit protéger la société et surtout réinsérer et rééduquer le délinquant. Le droit pénal côtoie d'autres sciences criminelles. La criminologie étudie les causes du crime et la personnalité du criminel, c'est une science empirique, d'observation, alors que le droit pénal est une science normative. La criminalistique regroupe les techniques de preuve matérielle, la pointe des points N, la balistique, la toxicologie. La pénologie, ou science pénitentiaire, étudie les peines, les mesures de sûreté et le régime des prisons. Et la politique criminelle, formule de Feuerbach en 1803, désignait l'ensemble des procédés pour combattre la criminalité. Nous entrons dans la première partie, avec le principe central de tout le cours, la légalité criminelle. La formule « pas de crime, pas de peine sans loi ». Il trouve sa source dans les œuvres de Beccaria et de Montesquieu. Seule la loi, expression de la volonté générale, peut créer des infractions et des sanctions. Ses textes de référence, la Déclaration universelle des droits de l'homme article 11, le Pacte international article 15, la Constitution article 6, et l'article 3 du Code pénal. Ce principe a deux corollaires essentiels, la non-rétroactivité de la loi pénale, et l'interprétation stricte. Ce principe impose des obligations au législateur. La source de la matière pénale, c'est la loi, même si des sources indirectes comme la coutume ou la religion peuvent éclairer certaines infractions. La loi pénale doit être claire et précise, c'est pour cela que l'article 2 affirme que nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale. Mais encore faut-il que la loi soit accessible. Enfin, la peine doit être proportionnelle à la gravité du comportement, et depuis 2011, un contrôle de constitutionnalité vérifie ses qualités. Du code du juge, le principe a aussi des conséquences. Le juge ne crée pas la loi, il doit qualifier les faits, c'est-à-dire trouver le texte applicable, et interpréter strictement. Il existe quatre modes d'interprétation, littérale, systématique, historique et téléologique, qui recherchent la volonté du législateur. Mais attention au piège majeur, l'interprétation par analogie est interdite en droit pénal, car elle reviendrait à créer une incrimination. Par exemple, on ne peut pas appliquer le texte sur le recel, qui vise les crimes et délits, à une simple contravention. Et en cas de texte obscur, le juge retient l'interprétation la plus favorable à l'accuse. Deuxième chapitre, l'application de la loi dans le temps. Le problème se pose quand la loi change entre le moment de l'infraction et le jugement. Le principe est la non-rétroactivité, c'est la loi en vigueur à la date des faits qui s'appliquent, la loi nouvelle ne rétroagit pas. Attention, ce principe ne concerne que les lois de fond, celles qui touchent à l'incrimination et à la sanction. Les lois de forme, elles, sont d'application immédiate. On retrouve ces règles aux articles 4 et 6 du Code pénal. Voici l'exception reine, à connaître parfaitement, la loi nouvelle plus douce rétroagit. On parle de rétroactivité in mitius, prévue à l'article 6. Deux conditions, la loi nouvelle doit être favorable aux prévenus, et entrer en vigueur avant un jugement définitif. À côté, d'autres règles particulières, les lois sur les mesures de sûreté sont d'application immédiate, ce sont celles en vigueur au moment du jugement, article 8. Et les lois temporaires, article 7, continuent de régir les infractions commises pendant leur application, même après qu'elles ont cessé d'être en vigueur, et même si elles sont plus sévères. Parfois une loi mêle du sévère et du doux. Si le texte est divisible, la jurisprudence applique rétroactivement la partie douce sans la partie sévère. S'il est indivisible, on suit la partie principale, par exemple, si une loi correctionnalise un crime mais supprime les circonstances atténuantes, on retient la rétroactivité, car la partie principale, la peine, est plus douce. Quant aux lois de forme, de procédure, elles s'appliquent immédiatement aux procédures en cours, en les améliorant pour la suite, sans revenir sur les actes déjà accomplis. Un chiffre incontournable, les délais de prescription de l'action publique. 15 ans pour un crime, 4 ans pour un délit, 1 an pour une contravention. Au-delà, on ne peut plus poursuivre. Quelques précisions, pour une infraction commise contre un mineur, le délai ne court qu'à partir de sa majorité. Et le délai est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction. Répétez, 15, 4, 1. Troisième chapitre, l'application de la loi dans l'espace, fondée sur la souveraineté de l'État. Quatre compétences existent. La compétence territoriale, fondée sur le lieu de commission de l'infraction au Maroc, que l'auteur soit marocain ou étranger. La compétence personnelle, fondée sur la nationalité, active quand elle vise l'auteur, passive quand elle vise la victime. La compétence réelle, lorsqu'une infraction porte atteinte aux intérêts essentiels de l'État, comme la fausse monnaie. Et la compétence universelle, fondée sur la nature du crime, comme la torture ou la piraterie. Pour les infractions commises au Maroc, l'article 10 soumet à la loi marocaine tous ceux qui se trouvent sur le territoire. L'article 11 ajoute des fictions de territorialité, les navires et aéronefs marocains, ou encore la complicité commise au Maroc d'un délit commis à l'étranger. Mais il existe des limites, les immunités. L'immunité du roi, dont la personne est inviolable et sacrée, article 46. L'immunité parlementaire, article 64, pour les opinions exprimées en assemblée. et l'immunité diplomatique. S'y ajoute l'amnistie, mesure législative qui efface le caractère délictueux, la grâce, attribut du roi qui agit sur l'exécution de la peine, et l'abrogation, qui dépénalise les faits. Pour les infractions commises à l'étranger, le Code de procédure pénale prévoit plusieurs cas. La compétence personnelle active vise l'auteur marocain, articles 707 et 708, il faut la nationalité marocaine, la présence au Maroc, et le respect de la règle ne bis in idem, c'est-à-dire ne pas avoir déjà été juge définitivement à l'étranger. Pour un délit, une condition de plus, une plainte de la victime ou une dénonciation de l'autorité étrangère. La compétence personnelle passive vise la victime marocaine, article 710. Et point essentiel à retenir, le droit marocain ne connaît pas la compétence universelle. Nous abordons la deuxième partie, l'infraction. L'article 110 la définit comme un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimée par elle. À côté, l'article 1er en donne une définition dite sociologique, centrée sur le trouble social. Le code pénal étant un catalogue d'infractions très diverses, la doctrine les regroupe selon trois classifications, la classification légale, la classification selon l'élément matériel, et la classification selon l'élément moral. Voyons-les. La classification reine est la classification légale, ou tripartite, fondée sur la gravité de la peine, posée par les articles 16, 17 et 18. Le crime est puni de réclusion, le délit d'emprisonnement, la contravention de détention. Cette classification domine tout le droit pénal et la procédure. Son intérêt est immense, elle commande la compétence des juridictions, mais aussi le régime de la tentative et de la complicité, qui ne sont jamais punissables en matière de contravention, et les délais de prescription, 15, 4 et 1 an. Une seule classification, 4 conséquences. Premier élément constitutif, l'élément matériel. Pour qu'une infraction existe, le comportement doit se matérialiser par un fait extérieur, les simples pensées ou opinions, même malveillantes, ne suffisent pas. L'élément matériel comprend deux composantes, l'acte et le résultat. L'acte, selon l'article 110, peut être une action ou une omission. L'infraction de commission consiste à violer une interdiction d'agir, voler, tuer. L'infraction d'omission consiste à violer une obligation d'agir, comme la non-assistance à personne en danger ou l'abandon de famille, prévu à l'article 479. L'acte se réalise de différentes manières. L'infraction peut être simple, un seul acte, complexe, plusieurs actes comme l'escroquerie de l'article 540, ou d'habitude, par répétition. Elle peut être instantanée, comme le vol, ou continue, comme le recel qui suppose une dissimulation qui dure. Quant au résultat, il distingue deux catégories. L'infraction matérielle exige un résultat dommageable et un lien de causalité entre l'acte et le dommage. L'infraction formelle, au contraire, est punie même sans résultat, l'exemple type est l'empoisonnement, puni dès l'administration de la substance, ou la fabrication de fausses monnaies. Deuxième élément, l'élément moral, considéré comme la clé de voûte de la théorie de la faute. La responsabilité pénale repose sur deux composantes, l'imputabilité, c'est-à-dire être sain d'esprit et capable de discernement, et la culpabilité, c'est-à-dire la faute. L'article 133 pose la théorie générale de la faute et distingue deux catégories, la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. L'intention, ou dol, c'est la volonté consciente d'accomplir un acte que l'on s'est défendu par la loi, deux éléments, la volonté et la conscience. Garçon, comme Merle et Vitu, la définissent comme la connaissance du caractère illégal de l'acte, accompli en recherchant le résultat prohibé. Deux pièges classiques autour de l'élément moral. D'abord, ne confond pas le mobile et l'intention. Le mobile, c'est la raison personnelle qui pousse à agir, la vengeance, la haine, la pitié, l'amour. Il est indifférent à l'existence de l'infraction, qu'il ait eu par vengeance ou par pitié, le meurtrier encourt la même peine. Le juge peut seulement en tenir compte pour moduler la peine. Ensuite, l'erreur. L'erreur de fait supprime le dol, celui qui porte un insigne trouve dans la rue, sans savoir que c'est une décoration officielle, ne commet pas de faute. Mais l'erreur de droit est indifférente, nul n'est censé ignorer la loi. À côté de l'intention, il y a la faute non intentionnelle. Elle consiste en une simple faute, imprudence, négligence, inattention. C'est le cas de l'homicide ou des blessures involontaires, articles 432 et 433. Il y a aussi la faute contraventionnelle, la simple violation d'une prescription légale ou réglementaire suffit, peu importe la bonne foi. Le terme que retient la doctrine, c'est l'imprévoyance, on reproche à l'auteur de n'avoir pas anticipé les conséquences de son comportement. Car l'acte, lui, reste volontaire, seules les conséquences sont involontaires. Passons aux personnes pénalement responsables. L'article 132 pose le principe, toute personne saine d'esprit est capable de discernement et personnellement responsable des infractions qu'elle commet, des crimes ou délits dont elle se rend complice, et des tentatives. L'auteur, c'est celui qui commet les éléments constitutifs de l'infraction, on parle alors d'infraction consommée. Quand plusieurs personnes participent ensemble à l'exécution matérielle, ce sont des co-auteurs, article 128. Et l'instigateur, article 131, est celui qui détermine une personne non punissable à commettre une infraction, il encourt les peines de cette infraction. La tentative, prévue à l'article 114, est assimilée au crime consomme. Elle suppose deux conditions. Première condition, un commencement d'exécution. C'est l'acte qui, au-delà des simples actes préparatoires, révélé de manière univoque que l'auteur ne reviendra plus en arrière. Deuxième condition, l'absence de désistement volontaire. Autrement dit, l'auteur ne s'est arrêté que par des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour empêcher la tentative, le désistement doit être volontaire, spontané, et antérieur à la consommation. Un repentir postérieur, même actif, est inopérant, seul le juge pourra en tenir compte. La tentative peut être infructueuse de deux manières. L'infraction manquée, l'auteur va au bout de ses actes mais le résultat n'est pas atteint, le coup de feu rate. Et l'infraction impossible, tuer un mort, par exemple. Dans les deux cas, le droit marocain retient la tentative, l'article 117 réprimait l'infraction impossible lorsque l'obstacle est matériel. Quant à la répression, retient bien la règle des trois catégories, pour un crime, la tentative est toujours punissable, article 114. Pour un délit, seulement si un texte spécial le prévoit, article 115. Pour une contravention, jamais, article 116. La complicité, prévue aux articles 128 à 131. Selon l'article 129, est complice d'un crime ou d'un délit celui qui, sans participer directement, provoque l'action par don, promesse ou menace, donne des instructions, procure des armes ou des moyens, ou aide et assiste l'auteur. L'article 130 pose la règle essentielle, le complice est puni de la même peine que l'auteur. Mais la complicité n'est jamais punissable en matière de contravention. La théorie retenue est celle de l'emprunt de criminalité, le complice emprunte la qualification et la pénalité de l'infraction commise par l'auteur. Le complice n'est ni auteur, ni co-auteur. La complicité obéit à des conditions précises. D'abord, quant au comportement du complice, il doit être intentionnel, le complice doit savoir et vouloir participer, il doit être un acte positif, on ne peut être complice par omission, il doit être antérieur ou concomitant au fait de l'auteur, et en lien avec lui. Ensuite, quant au fait principal, il doit être objectivement punissable, c'est-à-dire tomber sous une incrimination applicable. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit effectivement puni ni même poursuivi, si l'auteur est inconnu, en fuite, décédé, mineur, ou relax pour défaut d'intention, le complice reste punissable, car c'est une raison subjective qui ne profite pas au complice. Voici sans doute le piège le plus redoutable de tout le cours, qui revient souvent. La complicité de tentative est punissable, pourquoi? Parce que la tentative est elle-même un fait principal punissable, donc on peut en être complice. En revanche, la tentative de complicité n'est pas punissable, pourquoi? Parce que la complicité, pour être punie, doit être consommée, c'est-à-dire que l'acte de complicité doit être accompli, un simple commencement d'exécution de la complicité ne suffit pas, retient la formule, complicité de tentative oui, tentative de complicité non. Terminons par deux cas pratiques typiques de l'examen. Premier cas, Khalid, marocain, et Samir, égyptien, commettent un meurtre en Turquie. Khalid peut être juge au Maroc, par la compétence personnelle active, car il est marocain et présent au Maroc. Mais Samir, étranger, ayant agi à l'étranger, échappé à la justice marocaine, car le Maroc ne connaît pas la compétence universelle. Deuxième cas, Youssef, serviable et crédule, transporte sans le savoir un colis de drogue. Faute d'intention, il n'est ni auteur ni complice. En revanche, Mostafa, qui la manipule, reste punissable comme complice, car le fait principal est objectivement punissable, même si Youssef, lui, n'est pas responsable. Et voilà, nous avons parcouru l'intégralité du cours de droit pénal général. Tu connais maintenant la définition et les fonctions du droit pénal, les écoles, le principe de l'égalité, l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, l'infraction et ses éléments, et les personnes responsables avec la tentative et la complicité. Reprends la fiche, refais le quiz, corrige jusqu'à viser 16 sur 20, et réécoute cette formation autant de fois qu'il le faut. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Bon courage et bonne réussite à ton examen.